Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, je fais un épisode transverse. Je me trouve aujourd'hui dans l'atelier de Pauline Achard, luthière. Bonjour Pauline.
Bonjour Mathilde.
Luthière, est-ce que c'est bien comme ça que l'on dit pour une femme, du coup ?
Oui, tout à fait. Il y a la place pour un E, alors on le met.
D'accord, très bien. Donc, Pauline, vous êtes installée en tant que luthière à Figeac depuis plusieurs années. Et merci beaucoup de nous avoir ouvert votre atelier pour venir faire cet épisode et pour que vous nous expliquiez votre métier qui est proche des instruments, du coup, puisque vous faites des violons, des violoncelles, des contrebasses, des archets. Enfin, je vous laisse vous présenter et puis dire quel est votre métier.
Alors, je suis luthière du quatuor. Ça signifie que je m'occupe des instruments du quatuor. Et paradoxalement, le quatuor, en réalité, c'est trois instruments. C'est le violon, l'alto, le violoncelle. Par extension, on rajoute la contrebasse parce que c'est la dernière de la famille. Et donc, je m'en occupe aussi. Et puis, je fais un peu d'entretien, l'entretien des archets aussi.
Alors, est-ce que vous construisez des violons ou est-ce que plutôt vous les rénovez ?
Je ne construis plus depuis des années. Et je fais surtout de la restauration d'anciens et de la réparation et de l'entretien, du réglage, de la location, de la vente, de la lutherie courante, en fait, pour les besoins locaux.
Alors, est-ce que c'est un choix de plutôt rénover que de construire ?
Oui, c'est plutôt un choix, parce que c'est difficile de faire les deux, et de se concentrer correctement sur les deux, et d'avoir le temps de faire les deux bien. Donc, c'est vrai qu'en général, y a des luthiers qui arrivent à faire un peu les deux, mais en général, c'est vraiment des spécialisations, quoi.
Alors vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, de votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la lutherie ? Et comment vous êtes arrivé jusqu'à Figeac ?
La lutherie. Moi, je suis la seule de ma famille à avoir fait enfant de la musique. Je suis également la seule de ma famille à être artisan. Donc. Ça doit bien s'expliquer quelque part.
En effet.
J'ai voulu faire du violon quand j'ai eu 6 ans et ma mère n'était pas du tout contre, donc elle m'a inscrite à l'école de musique et puis j'ai fait mes petites années de violon. Et il se trouve que par rapport à l'histoire familiale, ma maman est italienne et qu'on a du coup la maison familiale au village à 1h30 d'une ville en Italie qui s'appelle Crémone et qui est... le berceau de la lutherie italienne et donc de la lutherie mondiale. Ma mère savait ça et s'était dit, tiens, on va emmener la petite visiter Crémone, quoi.
Et la ville du violon, quand même.
Exactement. Hein, À l'époque, j'avais peut-être 11 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens qu'à l'office du tourisme, on nous avait dit, dans cette ville, il y a 800 luthiers. Ça m'avait rendu dingue.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Et donc, on a fait tous les musées, les machins, tout ça. Enfin, c'est la ville de Stradivarius, donc tout est baigné par Stradivarius à Crémone. Et ça m'avait vachement marqué et plu. Et je pense que la petite graine, elle a été plantée là, quoi.
Alors, pour les auditrices et auditeurs qui connaissent peut-être pas très bien le violon, effectivement, Stradivarius est la référence, on va dire, en violon actuel. Alors, je pense que Pauline, vous saurez mieux l'expliquer que moi.
On prend souvent la lutherie italienne du XVIIIe siècle pour une référence absolue, ce qui est ni vrai ni faux en réalité, mais en tout cas, Stradivarius, c'est le grand nom que à peu près tout le monde connaît dans la culture populaire de ce domaine-là, quoi. C'est des très bons instruments, c'est un très grand luthier, il en a fait des moins bons aussi. Et puis c'était aussi surtout pas du tout le seul, ni à cet endroit-là, ni à cette époque-là. Et qu'en fait, la lutherie, c'est une histoire très riche. Une histoire européenne très riche et qui ne se résume pas qu'au XVIIIe siècle, quoi.
Et alors, comment ça se fait que c'est Stradivarius qui reste partout et qui reste, j'allais dire, très connu, même pour les gens qui ne font pas de violon. Moi, en général, on me demande toujours « Ah, tu as un Stradivarius ?» C'est vraiment le mot qui ressort.
Déjà, ça fait partie des instruments les plus chers. Et pourquoi? En fait, on a redécouvert tous ces instruments italiens du XVIIIe siècle qui étaient un peu tombés dans l'oubli. On les a redécouverts au XIXe siècle. En France, il y a un luthier à Paris qui s'appelait Jean-Baptiste Guillaume. Un jour, il y a un marchand italien qui est venu chez lui et qui avait sa charrette remplie de rognes, de vieux violons pétés et tout ça. Et Guillaume a eu le coup d'œil de dire « Oulala, c'est incroyablement intéressant, ces choses-là !» Et ça a été aussi les débuts de la restauration. Avant, on ne restaurait pas les instruments. Et du coup, Guillaume s'est retrouvé avec... comme ça, avec des arrivages de violons italiens 18e par charrette entière, en fait, qu'il fallait restaurer et vendre. Et c'est des violons, à l'époque, dont personne ne voulait, parce que personne n'avait compris que c'était de très bons instruments pour beaucoup d'entre eux, quoi. Et donc, il a fallu faire monter un peu la sauce. Il a fait un peu du marketing, ce type-là, en fait. Il a un petit peu construit toute une légende autour de Stradivarius. Enfin, voilà, il a monté, oui, une espèce de légende marketing autour de Stradivarius et des violons italiens de cette époque-là pour que ça se vende. Et ça a marché parce qu'au début du XXe siècle, les musiciens professionnels, ils voulaient tous un italien. Et ils achetaient, y compris les pires rognes, parce qu'il fallait un italien, c'était super à la mode. Tout le monde ne jurait que par ça. La lutherie française, plus personne n'en voulait. Et voilà, Guillaume, il avait juste beaucoup d'argent à gagner à ce moment-là, donc ça valait le coup de faire ce coup marketing. Mais aussi, il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire que Stradivarius, ça reste une énorme référence en termes de lutherie, et ça fonctionne. Mais aussi parce que Stradivarius, il est mort à 92 ans ou 93 ans, ce qui était une espérance de vie assez colossale pour le XVIIIe siècle. Ce qui fait qu'il a quand même travaillé deux fois plus longtemps que les autres. Donc, voilà.
Donc il a fait peut-être deux ou trois fois plus de violons que les autres.
Voilà, il a beaucoup produit, oui.
Donc en fait, Stradivarius, cette marque-là, c'est un coup de pub et qui a extrêmement bien marché puisqu'elle dure depuis au moins plusieurs siècles, si je comprends bien.
Tout à fait.
Donc il y a parce qu'il y a d'autres luthiers italiens et français et autres qui font des violons qui sont aussi bons voire mieux.
Oui.
Ça dépend desquels, mais qui sont moins cotés.
Tout à fait. Ben après il y a des noms moins connus mais qui sont placés sur le même piédestal que Stradivarius, les Amati, les Guarnerius, les Guadagnini, enfin tout ça. C'est des violons qui valent aussi extrêmement cher, qui sont à peu près de la même époque, mais qui sont moins connus au niveau du grand public, quoi. Mais ça n'empêche que ça reste une époque et un travail de référence. C'est pas du faux bon, c'est vraiment bon.
Mais, D'accord, c'est du vrai bon.
Voilà, c'est pas du chiquet. Après, le fait que ça vaille ce prix-là, c'est des histoires financières d'offres et de demandes. C'est une histoire de cotation, un peu comme sur le marché de l'art. Ça n'a aucun sens, un violon qui vaut 24 millions d'euros. Ça n'a pas de sens concret dans la qualité du violon, en fait.
Puis surtout que j'ai vu que... Enfin, j'avais été à Crémone, je pense, en 2005. Et donc, j'avais vu dans ce musée tous ces violons qui sont présentés. Je pense que vous les avez vus aussi, qui sont là. Et j'étais accompagnée d'un violoniste qui était dans un orchestre à l'époque et qui me disait « Oh là là, mais moi, ça me rend malade de voir tous ces bons violons-là et on les joue pas. » Alors, heureusement, on avait eu une personne du musée qui avait dit « Non, non, mais ces violons, ils sont prêtés à des solistes pour qu'ils soient joués. » Parce qu'un violon qui n'est pas joué, il n'est pas bon, en fait, au bout d'un moment.
Un violon qui n'est pas joué, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il s'endort.
Qu'est-ce que ça veut dire au niveau sonorité qu'il s'endort?
Ça veut dire que quand il n'est pas joué, il ne perd pas ses capacités de base. Mais si elles ne sont pas utilisées, exploitées et sollicitées, il se met un peu en sommeil. Et le jour où on va le rejouer, il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver le max de ses possibilités. Il va falloir, comme nous le matin, hein, qu'il se fasse craquer la nuque, qu'il boive un café, qu'il s'étire un petit peu le dos, et puis peut-être qu'à 11h30, il sera bien, quoi.
Voilà, très bien. Je pense que nos auditeurs et auditrices ont compris. Alors, je voulais vous préciser d'ailleurs qu'on est donc dans l'atelier de Pauline Achard, et que pendant qu'elle vous parle, Pauline est en train de faire craquer un violon, de réparer un violon. Alors, les réparations, est-ce que vous pouvez peut-être faire un petit résumé de tout ce qui peut se faire sur un violon ?
Il y a plein de choses qui peuvent se faire sur un violon, ça dépend de son besoin, s'il est vraiment, s'il nécessite de la restauration parce que il a été dans un grenier pendant 30 ans ou que sais-je. Si c'est un entretien de type simplement du montage, comme j'ai fait sur ce violon-là, c'est un violon qui est joué, mais le montage n'a pas été entretenu depuis des années.
Alors le montage, c'est les cordes, c'est le chevalet.
Voilà, le montage, c'est tout ce qui permet de rendre l'instrument jouable. C'est pas la caisse ou la tête, ou c'est vraiment ce qui est de l'ordre de rendre l'instrument jouable et ergonomique. Donc oui, ça va être l'attache cordier, les cordes, le chevalet, l'âme, les chevilles, la touche.
Alors il y a
des choses qui sont aussi un peu de l'ordre de l'accessoire et du consommable. Un chevalet, ça se change régulièrement. C'est comme les pneus de la voiture, c'est pas ça qui fait la valeur de la voiture.
Mais c'est ce qui fait qu'elle roule bien.
Mais c'est ce qui fait qu'on peut rouler avec, ouais.
Moi, j'ai quand même une expérience avec vous, hein. Je suis ravie que vous soyez installée à Figeac, parce que j'avoue que grâce aux petites... Je dirais pas petites mains parce que c'est dévalorisant, mais justement le montage, le réglage, le nettoyage aussi, parce qu'un violon a sacrément besoin de nettoyage au bout d'un moment. Mon violon a retrouvé vraiment beaucoup de voix. Je trouve qu'il s'est sacrément ouvert. Et les cordes aussi. Alors ça, j'étais impressionnée parce que vous m'aviez proposé d'essayer deux sortes de jeux de cordes. Et je me suis dit, oh, moi, je vais pas entendre. Eh bien, si, j'ai sacrément bien entendu.
Et, oui.
Et ça a fait une grosse différence. Et je trouve que vous avez un sacré travail parce que vous êtes capable de rendre de la voix à un instrument.
Ah bah, ça a beau faire 15 ans, à chaque fois que quelqu'un est content et me dit ça, je suis trop contente. Et à chaque fois, je trouve ça fou d'avoir réussi.
Alors vous faites plutôt partie, vous connaissez plutôt la musique classique. Enfin, vous avez fait de la musique classique et vous nous avez choisi un morceau à écouter que vous aimez. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors oui, moi j'ai un parcours classique et j'ai choisi le premier mouvement de la sonate numéro 5 de Beethoven, la sonate Le Printemps, pour violon et piano, joué par Leonidas Kavakos, parce que c'est un de mes violonistes préférés, c'est un violoniste grec qui est assez incroyable. Et voilà, je l'ai choisi parce que je me souviens en avoir... bien bavé plusieurs semaines à le travailler.
Alors c'est parti, on va l'écouter.
Thank you.
Alors, la sonate, le premier mouvement de la sonate de Beethoven, c'est ça, Pauline ?
Oui, la sonate numéro 5.
Et pendant qu'on écoutait la sonate avec vous, chères auditrices et auditeurs, Pauline a pris mon violon et elle commence à le nettoyer. Je pense que ça s'entend. Et hors antenne, j'ai entendu comment, mais les cordes n'ont pas été changées depuis quand ? Et là, et qu'est-ce que tu as fait, etc. J'ai eu un questionnaire. Hein, en règle, n'est-ce pas, Pauline ?
Oui.
elle ne vous laisse pas partir avec un violon qui ne va pas bien. C'est pas possible. Ça, ouais. C'est pas acceptable politiquement parlant.
Non, ben après, je m'adapte aussi à ce que les gens ils veulent faire et ils peuvent faire, mais j'explique le besoin de l'instrument et ce qui peut se passer si on le fait pas, quoi.
Et surtout, ça marche. Parce que moi, je suis contente, en tout cas.
Bah oui, en général, les gens, ils ont quand même envie que leur instrument aille bien et que ça sonne bien et ils prennent à cœur l'entretien, donc...
Et alors, justement, on parlait de ça plusieurs fois avec vous, Pauline, c'est que qu'on soit débutant ou très confirmé, il faut un bon instrument pour commencer. Enfin, pour faire de la musique, il faut un bon instrument. Voilà. Alors, on pense souvent que quand on commence, on n'a pas besoin d'un instrument qui soit extrêmement bon, etc. Mais je dirais que déjà, commencer le violon, c'est ingrat. Il faut vraiment en avoir envie. Alors, il faut un instrument qui sonne bien, n'est-ce pas ?
Oui. En fait, souvent, les gens, ils me disent « Oh, bah, on a acheté un violon sur Internet à 100 euros parce que, bon, on est débutant. » Mais en fait, c'est un mauvais calcul, c'est une fausse économie. ces violons-là qui viennent d'Internet et qui valent 3 francs 6 sous, ils arrivent chez vous, ils sont absolument... Il n'y a pas de montage, pour le coup. Il n'y a pas d'ergonomie, les cordes sont très loin du manche, les instruments sont très lourds. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne et qui correctement, en fait, juste basiquement, ça... C'est même pas que ça sonne mal. Oui, il se trouve que ça sonne mal, mais en fait, basiquement, juste, c'est mal construit, quoi. Et moi, je fais toujours le comparatif avec la voiture, parce que ça marche à tous les coups. Tout le monde a une voiture et tout le monde comprend. C'est pas parce qu'on vient d'avoir le permis qu'il faut acheter une voiture qui a pas de frein et deux pneus morts sur quatre. Et, en fait, c'est pas nécessaire d'avoir la super dernière Alfa Romeo dernier cri. Mais il faut qu'elle fonctionne, la voiture, en fait. Il faut qu'il y ait une vidange qui soit faite, que les pneus soient bons et que ça freine. Donc ça, c'est le minimum syndical que ces violons n'ont pas, en fait. Donc il y a une base quand même en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, même quand on est débutant. Et justement, en plus, si on a un violon qui ne fonctionne pas du tout, on va se décourager très vite et abandonner. Et on aura perdu ses 100 euros. C'est tout ce qui va se passer, quoi.
Voilà, je crois que le message est bien passé. Même Armand a rigolé. Je crois que le comparatif avec la voiture était très bien. Donc moi, personnellement, je vous conseille de venir voir Pauline parce que j'ai quand même vu deux personnes. J'ai amené deux personnes chez vous qui ont acheté des violons, du coup. Et c'était très bien adapté. C'était un très bon rapport qualité-prix. Il n'y avait pas besoin de mettre, combien on avait dit tout à l'heure, 24 millions d'euros pour un Stradivarius?
Non, il n'y a pas besoin de mettre ça quand on débute. Il n'y a même pas besoin de mettre 2000 euros quand on débute, en fait. Quand on débute, on peut mettre 750, 800 euros pour débuter. C'est très bien.
Et on peut aussi louer.
Et on peut aussi louer, si voilà. On n'est pas sûr, parce que bon, je dis 800 euros, mais ça reste quand même un budget. Hein.
Oui, oui.
Moi je propose aussi de la location, ce qui permet aussi de voir sans s'engager sur des grosses sommes, ça permet de voir si on accroche avec l'instrument, si ça nous plaît aussi.
Voilà, et vous louez des violons, alors il y a plusieurs tailles, effectivement, quand on est tout petit et qu'un enfant veut commencer à l'âge de 3 ans, 4 ans, 6 ans, eh bien il y a des violons qu'on appelle des celui qui est que j'ai moi parce que je suis une adulte, c'est le 4 quarts. Et vous avez jusqu'à combien les tout petits?
Oui, c'est comme les gâteaux. Le violon taille adulte, ce qu'on appelle le violon entier, c'est la taille 4 quarts. Et puis après, on descend en quarts, comme dans un gâteau. Donc en dessous du 4 quarts, il y a le 3 quarts, puis le demi, puis le quart, le 8e, il y a même 16e.
Alors le 16e, c'est hyper mignon, c'est tout minuscule. Petit. Mais ça permet aux enfants de pouvoir prendre des violons et de pouvoir commencer à jouer. Et d'ailleurs, comme ils grandissent, effectivement, c'est mieux.
Voilà, petit à petit, donc on choisit un violon adapté à leur taille. Et puis petit à petit, ils vont passer au fur et à mesure de leur croissance avec la taille au-dessus, puis au-dessus, puis au-dessus, jusqu'à arriver à la taille définitive au 4 quarts.
Et il y avait Armand qui prenait des photos là, des violons et des violoncelles qui sont dans votre atelier. C'est quand même chouette, un atelier de lutherie. Moi, j'aime beaucoup regarder. Vous avez aussi des violoncelles et des altos, peut-être?
Tout pareil, ouais. Alto et violoncelle aussi, oui.
Et les violoncelles, j'ai vu un tout petit.
Oui, j'en ai des tout minuscules. Bah, c'est pareil, hein, ça se décline en quart aussi, enfin, en découpe de gâteau. Et donc, il y a des tout petits violoncelles vraiment trop mignons, quoi.
Et j'insiste parce que à toutes les émissions, j'appelle les auditrices et auditeurs à se motiver pour faire de la musique. Je répète souvent qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut commencer dans le ventre de sa mère, on peut commencer à 3 ans, à 6 ans, à 60 ans, à 45 ans, à 30. Et il y a des instruments adaptés, et même le violon, parce que j'entends souvent « Ah, mais le violon, c'est un instrument difficile, il fallait que je commence plus tôt ». Eh ben non, on commence à... De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, et on se choisit la bonne voiture, comme dit Pauline, qui marche bien, le bon professeur, la bonne luthière. Et puis on commence l'instrument avec la musique que l'on souhaite.
Oui, et il n'y a pas d'instrument difficile, en fait. Enfin, il n'y a que des instruments difficiles, en fait. La musique, c'est exigeant. La pratique d'un instrument, ce n'est pas facile. Ça demande du travail, en fait. Et c'est simplement que selon les instruments, les difficultés sont pas placées aux mêmes endroits et on va pas à la même vitesse. Au piano, on peut très rapidement se faire plaisir et jouer des petits morceaux très rapidement les premiers mois. le violon, de par la contrainte physique, par exemple, qu'il représente, ben, c'est un petit peu plus long d'arriver à faire des petits morceaux et de se faire plaisir. Mais une pratique instrumentale, elle demande du travail de toute façon, tout le temps, toute la vie. Donc ça, c'est incompressible, quoi. Et après, le violon, il a cette réputation, je pense, de difficulté. Je pense par rapport à la position, à ce qu'il exige physiquement dans la position du corps qui est pas du tout naturelle, avec le bras levé, le coude rentré, le poignet pivoté. C'est pas du tout une position naturelle. Et quand on apprend cette position à 6 ans, moi je peux rester des heures dans cette position sans me faire mal. Je conçois que quand on commence à 30, 40, 50 ans l'instrument, cette position, on peut pas la tenir longtemps au début et que ça peut faire un peu mal de solliciter son corps comme ça au début avant de trouver la bonne détente. Alors que par exemple, le violoncelle demande des positions de bras beaucoup plus naturelles et moins forcées, et que les adultes vont peut-être plus facilement se tourner vers le violoncelle qui semble faire moins mal que le violon. Mais bon, je pense que tout ça, de toute façon, avec le travail, ça se lisse, quoi.
Puis aujourd'hui, il y a aussi des posturologues qui peuvent aider, des kinés.
Oui.
On a vu à travers, c'est très bien votre retour, parce que vous avez fait de la musique classique. Vous êtes donc basé plutôt sur le classique, même si vous donnez beaucoup d'instruments à des musiciens traditionnels, et on y reviendra tout à l'heure. Parce qu'on a vu à travers les musiques traditionnelles, les diverses émissions, qu'il y a des musiciens qui tiennent leur violon de façon différente, sur le bras, qui lèvent pas le coude, qui, bon, alors ça, on a un peu plus de liberté qu'en classique, on l'avait expliqué, notamment avec Guillaume Schilling, qui est venu au micro, et qui explique les différences entre la position qu'il peut utiliser en classique ou en musique traditionnelle. En tout cas, il y a moyen de trouver une position confortable. Et de toute façon, un instrument, ça demande une position, voilà, qui est un peu particulière, même quand c'est de l'accordéon, et, ou de la cabrette, ou de la clarinette, etc. Voilà. Alors, Pauline, il nous reste juste 2 minutes, me dit Armand. Okay. On me souffle à l'oreillette. J'aurais voulu que vous nous parliez de votre parcours de lutherie. Où est-ce que vous avez pu faire ça ?
Alors, le parcours, en fait, en France, il y a une seule école où on peut apprendre le métier de la lutherie pour le quatuor. En tout cas, pour la guitare, c'est encore autre chose. Il y a une école en France qui se trouve dans les Vosges. Et puis après, il y a quelques écoles en Europe, notamment en Italie, évidemment, à Cremone.
Évidemment, évidemment.
Aussi. Il y en a une en Angleterre, il y en a une en Belgique, il y en a une en Suisse. Voilà, il y a quelques...
Et ça dure combien de temps ?
Alors, l'école en France, elle dure 3 ans.
Est-ce qu'il faut des... Pour y rentrer, il faut des capacités avant ou...
Il y a une sélection un peu dure, dans le sens où, de mémoire, je dirais qu'il y a 300 candidatures par an, mondiales, de gens de partout dans le monde. Ah oui. Parce que c'est une école qui a une grande réputation. Et au final, moi, à mon époque, maintenant, moi, à mon époque, ils en prenaient 11. Maintenant, je crois que c'est 12. Ouh. Voilà, 12 élèves par an. Donc oui, la sélection, elle est un peu serrée, du coup, ouais.
Et alors, elle est basée sur...
Eh bien, c'est un grand mystère, on n'a jamais su.
Ah, d'accord.
Non, si, en fait, il y a à la fois... Enfin, il y a des critères, mais en fait, il n'y a pas tant de critères que ça, puisqu'on peut rentrer à l'école... soit parce qu'on... Il y a l'entrée musicale et l'entrée artisanale, en fait. Il y a des gens qui sont rentrés à l'école de lutherie sans avoir jamais trop fait de musique, mais ils avaient fait, par exemple, un CAP d'ébénisterie. Il y a des gens qui sont rentrés à l'école de lutherie qui n'avaient jamais touché un ciseau à bois, mais par contre qui avaient un cycle 3 en violon. Voilà, c'est des profils qui peuvent être très variés. C'est après le bac, il faut avoir 18 ans et le bac, mais on peut aussi rentrer. Moi, je suis rentrée tard à l'école, j'avais 23 ans quand je suis rentrée à l'école. Et dans ma promo, il y avait aussi des gens qui avaient un DUG de chimie, moi j'avais une licence de lettres. Enfin, il y avait des profils très variés. Il y avait aussi des gens qui avaient un CAP d'ébénisterie. Enfin, voilà.
Oui, donc c'est très, très divers en fait finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir été de 25 générations de luthiers pour rentrer dans cette école.
Oui, en fait, c'est par l'entretien qu'ils essaient l'entretien visuel qu'ils essaient de un peu de déterminer la motivation et les dispositions des personnes, quoi.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Pauline. On arrive à la fin de cette émission. On va devoir quitter votre atelier. J'aimerais que vous disiez où est-ce que vous êtes située à Figeac. On le mettra bien sûr sur le texte du podcast, n'est-ce pas, Armand ?
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai longtemps été dans le centre-ville, mais j'ai déménagé il y a un peu moins d'un an. Donc là, je suis au 10 avenue Julien Bailly. C'est un petit peu au-dessus du Foirail. Un Figeac, pour les personnes qui connaissent. C'est pas une boutique comme je pouvais avoir avant, avec une vitrine, etc. C'est dans une maison, mais il y a un petit panneau qui annonce mon nom sur le portail.
C'est facile d'arriver. Hein. Ça va, Armand, vous êtes pas perdu.
Non, ça va.
Voilà. Donc, on vous mettra ça dans les informations dans le texte du podcast. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir reçus. Merci, Armand, d'être venu jusqu'ici. Heureusement, j'avais amené les croissants. Et à bientôt, chères auditrices et auditeurs.